Bonjour à tous. Donc, Michael a dit, je m'appelle Nathana, je suis de Marseille. J'exerce en tant qu'architecte là-bas. Et puis, je suis effectivement de l'église commune avec Mika, qui est le CEP Marseille. Merci infiniment de l'invitation, pas tant pour parler, mais pour assister au culte ensemble et contempler ce beau diamant qu'est Dieu, finalement, mais d'un autre point de vue. Si vous n'étiez pas là, je ne saurais pas à quoi ressemblait la facette de Dieu vue depuis Cré. Et puis, je vais essayer d'apporter moi-même comment est-ce que Dieu est vu depuis Marseille. Mais c'est le même Dieu. Et c'est chouette qu'on puisse partager cela. Ce matin, je voudrais vous parler d'un livre qui aurait pu s'intituler Camoulox. Je ne sais pas si certains connaissent ce jeu parodique. Pour ceux qui ne savent pas, Camoulox, c'était une émission qu'ils avaient créée à la fin du siècle dernier, ça veut dire au début des années 2000. Et où c'était vraiment très parodique parce que c'était très bête. C'est deux opposants qui s'envoyaient des phrases, mais sans queue ni tête. Des phrases surréalistes. J'en ai noté certaines. Je photocopie du sable et j'achète un hôtel. Vous n'avez pas compris, c'est pas grave, c'est bien l'objet de ça, c'est qu'il n'y a aucun lien entre les deux phrases et c'est surréaliste, c'est absurde au possible. Et le livre, aujourd'hui, qui parle de ça, a cette même approche parce qu'il constate que la vie, quand tu la regardes au global, elle n'a pas non plus d'ordre défini, une logique totale. Elle est sans queue ni tête. Tu peux être en bonne santé et puis le lendemain, une maladie, tu apprends qu'il y a une maladie. Tu peux être avec un être cher et le lendemain, il décède. Tu peux avoir un travail. Le lendemain, sans prévenir, voilà qu'il va couler. Ce travail, tu vas devoir le quitter. Donc, cette vie, elle est pleine de temporalité. Et d'ailleurs, vous connaissez probablement ce que disent ces quelques phrases qui précèdent notre passage aujourd'hui de l'Ecclésiaste, où Dieu dit qu'il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose. Un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour démolir, un temps pour construire. Et la vie, elle est faite de ça, mais sans qu'il y ait un ordre en disant « Ok, Dieu m'a prévenu, on va passer dans une zone de turbulence comme dans l'avion. » Non, la vie, elle ne te prévient pas, elle t'arrive et hop, tu es dans le temps et tu es soumis à cela. Et d'une certaine manière, la vie, c'est un peu Camoulox. Elle est sans queue ni tête. Et l'objectif que je voudrais partager avec vous, c'est comment est-ce que dans cette vie, un peu dérisoire, comme il dirait l'Ecclésiaste, comment est-ce qu'on peut réussir à trouver de la joie? Comment est-ce qu'on peut trouver des certitudes alors qu'autour de nous, tout est incertain? Et pour répondre à ça, je nous propose de lire ce passage dans Ecclésiaste 3, les versets 10 à 15. Je les ai affichés ici, mais si jamais vous désirez suivre dans votre propre Bible, je vous encourage vivement, peut-être parce que c'est la traduction qui vous est préférentielle, ou tout simplement pour vérifier que je ne dis pas de bêtises, c'est pas plus mal. Donc je vais lire ici dans la version du Semeur. J'ai considéré les différentes occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité. Et pourtant, l'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Aussi ai-je conclu qu'il n'y a rien d'autre qui soit bon pour lui que de jouir du bonheur et de se donner du bon temps durant sa vie. Car si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur au milieu de son dur labeur, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait demeure à toujours. Il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher, et Dieu l'a fait ainsi pour qu'on le révère. Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé, ce qui sera dans l'avenir a déjà été, et Dieu fait revenir ce qui a disparu. C'est là la fin de la parole et à présent, pendant les 22 prochaines minutes, on va essayer de commenter un peu pour essayer de découvrir que nous dit le maître pour vivre la vie avec bonheur même si elle est incertaine. Et il y a deux choses qu'on peut retenir de ce passage. Deux éléments de réponse qui vont nous encourager à dire « Je ne sais pas quelle sera la prochaine étape qui m'attend, mais j'ai des certitudes que je peux les passer avec joie et avec espérance. » La première chose qu'il nous dit, le maître, l'Ecclésiaste, donc, c'est que Dieu fait toutes choses belles en son temps. voyez les versets 11 et 14 qui se répondent un peu. Elles disent à peu près la même chose. Il dit « Dieu fait toutes choses belles », on s'entend. Et puis le verset 14 exprime cette perfection de ce que Dieu fait aussi. « Je sais que tout ce que Dieu fait demeure à toujours. Il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher. » Quand on lit « Dieu fait toutes choses belles », on s'entend, on ne peut pas s'empêcher de penser à Dieu qui, au bout de la création, a vu ce qu'il a fait, il a dit. Il vit que toutes choses étaient très belles. Dans ce que Dieu fait, il n'y a rien de mauvais. Dieu fait une œuvre parfaite. Premier élément, et il donne un deuxième élément, c'est qu'il dit que Dieu a permis à l'homme de connaître que la vie n'est pas limitée à ses 70, 80, 100 pour les plus chanceux, ici, mais qu'il y a quelque chose après. C'est le sens de la phrase. Il a implanté au tréfonds de l'homme le sens de l'éternité. Si on devait résumer ce qui est ici, c'est Dieu dit à l'homme, ta vie n'est pas juste limitée à 90 ans, et dans ce qui va dépasser ce que tu vas vivre ici, moi, je fais toutes choses belles. Si on fait un dézoom et qu'on va à la fin du livre de Dieu, de toute l'histoire, Dieu va dire, il va redire la même chose en disant, Dieu vit que toute chose était bonne. Et c'est très important parce qu'avant cela, juste dans les versets qui précédaient, de 1 à 10, il a dit que la vie de l'homme est faite d'une multitude de choses incertaines. Mais que la somme de tout ça, à la fin, Dieu va conduire à ce que la chose soit belle. Je sais qu'il y a des personnes ici qui travaillent dans le bâtiment, font des chantiers ou alors bricolent un tout petit peu. Et je ne sais pas si vous avez vu un chantier au début. Un chantier, c'est, pardonnez l'expression, c'est le why, un chantier. Moi, je le vois sur mes chantiers, ça ressemble à rien, au fait, un chantier. C'est une somme de nuisances, d'imprévus, de dépenses. C'est désagréable, il y a de la poussière. C'est un chantier, il n'y a rien d'agréable. Et un chantier ressemble beaucoup à une vie, au fait. Tant que tu es dedans, tu ne vois que tout ce qui va mal. Mais soudainement, si tu mets en toi la pensée en disant, tiens, il y a eu un architecte qui a pensé, qui a réfléchi à ce que la somme de ces choses mauvaises, à la fin, produira quelque chose de beau. Soudainement, ta préoccupation n'est pas de dire « Mais pourquoi est-ce que je fais ça ?» C'est comme cette histoire, vous la connaissez probablement, c'est un monsieur qui s'appelle Jacques. Non, pardon, il s'appelait Charles. Charles Péguy, qu'importe, c'était un écrivain à l'époque, et on raconte cet épisode qu'il se baladait comme ça, il visitait le chantier d'une cathédrale. Il passe à côté d'un homme qui est en train de tailler des pierres, et c'est pénible, c'est très fatigant pour lui. Il lui demande, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il lui dit, je casse des pierres parce que bon, il faut que je nourrisse la famille. C'est très pénible, c'est très fatigant, mais il faut que je le fasse. Quelle triste situation. Il avance dans le chantier, il rencontre une autre personne. Cette personne fait exactement la même tâche et il lui demande, vous monsieur? Il lui dit, mais je construis une cathédrale. Et puis il se remet avec beaucoup d'entrain dans son œuvre. La différence entre ces deux personnes, c'est que l'autre avait en vue la finalité, la beauté de ce qu'il allait faire. L'autre était focalisé sur sa petite tâche pénible. Tous les deux avaient une tâche pénible, mais l'un avait en vue la finalité. Ainsi en est-il de nous si nous arrivons à comprendre que Dieu fait toutes choses belles en s'entend et si nous avons en tête que c'est sur l'échelle de l'éternité. Dans la petite histoire que je viens de raconter, vous remarquez qu'il ne s'est pas adressé à l'architecte, le gars. Parce que si l'architecte dit, bon, il aurait dit, ben, je fais une cathédrale, regardez à quoi ça va ressembler, ça sera très beau, etc. C'est comme si on interrogeait Dieu. Dieu, au fait, il n'a aucun souci. Si on lui dit, mais Dieu, tu as envoyé un cancer là à quelqu'un. Et Dieu dit, oui, ah, mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, il ne dit pas, c'est pas grave. Il dit, ne t'inquiète pas, je vais faire toute chose belle en s'entend. Il n'a pas interrogé l'architecte, il a interrogé l'ouvrier dans sa petite tâche. Et l'ouvrier n'a pas toute la mesure de tous les plans, finalement. De même, il nous est dit dans ce passage que l'homme, même s'il a une conscience de l'éternité, il ne sait pas l'œuvre que Dieu va faire du commencement jusqu'à la fin. Il n'a pas chaque étape du chantier. Et pourquoi Dieu agit ainsi ? Dieu agit ainsi pour que nous placions notre confiance en lui. Pour que nous ne soyons pas là comme des personnes à qui Dieu doit rendre des comptes en disant « Ok, pourquoi est-ce que ça arrive maintenant ?» Pour Dieu, ça lui suffit de nous faire connaître que « Je vais conduire toute chose belle en s'entendant. » Et peut-être que chez vous, comme chez moi, ça évoque ce passage que nous aimons tant et qui me semble tout à fait adapté et en écho à ce qu'on vient de lire en Romains où l'apôtre Paul dit que toute chose, nous savons du reste, dit-il, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Dieu fait donc toute chose belle en son temps, et la chose belle que Dieu accomplit, c'est de nous rendre semblables en la chose la plus belle qui soit, Jésus-Christ, l'image de Dieu. Ce que Dieu fait au travers de ce que tu traverses, maintenant, ce que tu vas traverser, c'est qu'il entend de te façonner à l'image du Christ. C'est dur de l'entendre quand tu es à l'intérieur même de l'épreuve, mais Dieu te dit aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mon enfant, je suis en train de façonner Christ en toi. Et j'ignore dans quelle phase du chantier de ta vie est-ce que tu te trouves aujourd'hui, à cette époque. Est-ce le pénible chantier du chômage ou de la maladie? Peut-être est-ce la retraite? Peut-être est-ce la découverte de la parentalité? Peut-être est-ce un mariage? Peut-être est-ce le divorce? Je ne sais pas dans quoi est-ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu es dans un temps où tu dois planter ou plutôt arracher? Est-ce que tu démolis? Est-ce que tu construis? Et j'ignore même quand est-ce que ça va passer à la prochaine phase, parce que tu as envie de dire, Dieu, ça fait longtemps que je suis sur ce chantier. Et croyez-moi, c'est pénible quand un chantier dure vraiment longtemps. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est en train de conduire toute chose vers la perfection. À la fin, quand on sera avec lui dans le ciel et qu'on regardera en arrière, on se dira, ah, il n'a rien à y rajouter, rien à y retrancher, on dira juste comme ça. C'est parfait ce qu'il avait. Il n'avait aucun autre ingrédient. Donc, soyons encouragés, car Dieu, à la fin, conduira toute chose vers la perfection, même si c'est difficile aujourd'hui. J'avais dit qu'il y avait deux éléments qui permettaient au maître de nous encourager au travers des incertitudes de nos vies. Voici la première, elle est plutôt à long terme. Et parfois, tu te dis, c'est vrai, c'est important, mais qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un peu d'espoir que ça change? Eh bien, l'Ecclésiaste nous dit que oui. Dans un premier temps, nous avons dit que Dieu, en 100 ans, dans son timing, il fait toutes choses belles. Nous apprenons aussi que Dieu fait de belles choses dans notre temps, dès aujourd'hui, dans notre vie quotidienne. Constatez le verset 12. Je n'ai pas mis la référence ici, mais c'est le verset 12, si vous voulez bien vérifier. Il dit que si quelqu'un peut manger et boire et jouir du bonheur dans sa vie, c'est un don de Dieu. Et on ne peut pas vraiment savourer toute la portée et l'ampleur de ce message tant qu'on n'a pas vu l'arrière-plan de ça. Parce que le mot « dur labeur » ici nous renvoie au fait à la Genèse. Pour ceux qui ne seraient pas trop familiers avec la Bible, je vais vous la raconter rapidement, si vous êtes habitués. Petite révision, mais dans Genèse 3, Dieu a fait cette création merveilleuse où Dieu a dit « tout est parfait, tout est beau », mais l'homme a décidé finalement de suivre son propre chemin. Et il subit donc la punition de Dieu qui s'exprime en ces termes. Il dit à Adam, « puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine, de dur labeur, que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons. Et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain et ta sueur, ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Le passage précédent nous dit « c'est un don de Dieu si on peut jouir du bonheur là-dedans. » Ce qui se passe, c'est que la logique, c'est que Dieu est trop gentil presque. Normalement, on n'aurait même pas dû bénéficier de quoi que ce soit. On aurait dû galérer labeur après labeur dans l'attente de la mort. Voilà ce qui aurait été logique dans notre humanité à chacun. Mais Dieu est bon. Dieu est comme un papa qui punit son enfant. Et pourtant, il ne met pas toute sa colère non plus. Il se dit, je ne vais pas donner ce que tout le mal qu'il mérite. Nous ne sommes pas traités à la hauteur du mal que nous avons fait. Au fait, ce que Dieu fait, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant le confinement, l'État a autorisé, on dit, tout le monde est supposé être enfermé. Mais exceptionnellement, il sera autorisé parfois de sortir pendant une heure pour aller faire une course, pour aller faire une petite balade. Et c'est, je ne sais pas si vous l'avez savouré, mais moi, ce temps-là, je me suis dit que j'étais supposé être enfermé. Et soudainement, je peux être un peu à l'extérieur. La condition globale est quand même mauvaise, mais il y a cette petite lumière. C'est un peu encore comme... j'ai eu ma maman hier, au téléphone. Elle habite à Madagascar, et là-bas, figurez-vous que l'eau n'est pas aussi courante que quand on est ici, on allume le robinet, et puis ça arrive. Eux, ça arrive par intermittence, surtout que là, on est dans la période de sécheresse. Et donc, ce qu'elle me dit hier, c'est que hier, oh, elle était trop contente, on a eu 2 heures d'eau hier qui coulait pendant le soir. Alors toi, tu te dis, oui, moi, je l'ai tout le temps. Mais en fait, tu vois que tu savoures mieux les grâces quand tu réalises que c'est pas supposé être comme ça. La logique, c'est que ça soit sec. Et là, elle a eu de l'eau. Et soudain, tu te dis, waouh, ouais, je jouis de cette chose-là. Imaginez encore quelqu'un qui était condamné à perpétuité. Tu es supposé passer tout le reste de ta vie jusqu'à ta mort en prison. Et voilà qu'un président dit, je vais t'accorder ma grâce. Tu étais en prison toujours. Tu n'as rien fait à l'extérieur qui dit, oh punaise, c'est un héros et tout. Bon, ça va, il va bénéficier de sa grâce. Ça reste le même malfaiteur, mais le président a dit, je suis bon. Sors de là, bénéficie de cette joie. Toutes ces images, je les accumule juste pour qu'on comprenne que nous sommes supposés être dans une situation dramatique, de dur labeur dans l'attente de la mort. Mais Dieu fait grâce. Et Dieu ne nous punit pas à la hauteur du mal que nous faisons. Mieux encore, Dieu se plaît à annuler le jugement contre nous. Et l'expression la plus claire de cette grâce de Dieu, c'est finalement l'envoi de Jésus-Christ. Alors que nous méritions tous d'aller vers la mort, il a dit « Non, je vais leur offrir une porte de sortie. » Une grâce présidentielle pour éviter qu'ils aillent vers la mort. Et voici, je vous montre Jésus. Celui par lequel vous allez pouvoir non seulement jouir de quelques bonheurs, mais maintenant vous allez être en communion avec moi. Nous ne sommes plus punis par Dieu, nous sommes en communion avec Dieu. Je trouve que la grâce est presque injuste parce que Dieu accorde déjà des grâces communes. Nous avons la santé, nous avons un toit par-dessus nous. Mais en plus, Dieu dit, je vous ai donné Jésus-Christ, à combien plus forte raison je vais vous donner toutes les autres choses par-dessus. Jésus, c'est le summum de ce que Dieu est capable de donner. Donc s'il y a des petites choses dont vous avez besoin, oh, ça ne lui coûte rien du tout de le donner, au fait, en vrai. Elle dit, ah, j'ai déjà tout donné, ça va. Oui, oui, tu me demandes ça. Je sais que tu en as besoin. Et ce que Dieu veut nous enseigner au travers de ça, c'est de nous réjouir. Voilà le refrain qui revient à 7 reprises dans ce livre de l'Ecclésiaste et qui dit « Réjouis-toi de ces petites choses ou ces grandes choses dans la vie. » C'est vrai, c'est pas logique au fait finalement. Pourquoi est-ce qu'on a un toit? Pourquoi est-ce qu'on a la santé? Pourquoi est-ce qu'on arrive à nous réunir ici sans que l'État nous poursuive? Pourquoi est-ce qu'on a un travail? Il n'y a rien de logique à ça. On pose souvent la question à Dieu, pourquoi est-ce que je suis malade ou pourquoi est-ce que j'ai ceci, j'ai cela? Mais rarement on pose à Dieu la question, mais pourquoi est-ce que je me suis levé en bonne santé ce matin? L'enseignement de ce livre, c'est pas tant de nous réjouir juste ça, on sait le faire en fait. Et Dieu prend beaucoup de plaisir quand il se dit, ah punaise, ils sont en train de célébrer un mariage, c'est chouette, c'est ma grâce, ils se réjouissent et ils me remercient. Ce que Dieu veut nous encourager plus à faire encore, c'est exprimer notre reconnaissance après chacune de ces belles choses que Dieu nous demande de nous donner à vivre finalement. Rarement, moi, après avoir vu un ciné, je prends le temps de me dire « Seigneur, merci d'avoir vu ce super film ». Dieu se réjouit totalement que je sois allé là-bas, mais il aime qu'on lui rende grâce, qu'on lui exprime notre reconnaissance à nouveau et voilà peut-être l'autre défi pour chacun de nous aujourd'hui. On va vivre de belles choses prenant le temps de remercier Dieu, peut-être que vous y penserez quand vous ferez couler la douche aussi en disant « l'eau est arrivée directement, merci Seigneur, parce qu'il y a de l'eau ». Et il y a mille et une raisons de canter les bienfaits de Dieu. Le faites pas trop par contre, parce que ça peut prendre beaucoup de temps après quand tu y réfléchis, parce que c'est vraiment une somme de grâce sur grâce. Dieu, t'as pas eu le temps de le remercier pour la grâce, qu'il y a une autre qui arrive déjà, c'est des vagues après vagues. Réjouissons-nous de cela. Et au plus haut sommet, quand on ne le voit pas, réjouissons-nous de ce qu'il nous a donné. Jésus, nous ne le méritons pas, mais Dieu veut nous donner cette grâce-là. Et j'aimerais conclure à présent en nous rappelant que l'objectif ce matin, c'était de voir comment, face à la vie incertaine que nous avons et que nous partageons tous, comment est-ce que Dieu nous aide à nous réjouir, à trouver le bonheur. Il nous dit « Je fais toutes choses belles dans mon timing ». Mais aussi, je fais de belles choses, d'ores et déjà, dans ton temps. Et c'est donc un appel à nous confier en Dieu. Nous n'avons pas besoin que Dieu nous explique étape par étape qu'est-ce qu'il va faire. Nous savons qu'à la fin, le livre finira bien. Plaçons notre confiance en Dieu et au quotidien, remercions Dieu. N'oublions pas néanmoins que ces joies, comme je l'avais dit tout à l'heure, sont éphémères. La vie est absurde. La vie est un camoulox où peut-être que demain ça va s'arrêter, la période de joie où tu es. N'oublie pas que ce ne sont finalement que des petites auberges. Nous sommes appelés vers une grande maison, il y a une grande villa qui nous attend à la fin. Et peut-être que tu vas devoir quitter cette auberge. Comme le dit cet auteur qui s'appelle C.S. Lewis, notre Père, dit-il, nous offre au cours de notre voyage de quoi nous rafraîchir dans des auberges bien plaisantes. Mais il ne nous encourage pas à nous prendre ces auberges pour la maison. Donc tu vas peut-être perdre dans ce voyage une auberge, et peut-être que le chemin va être plus lent jusqu'à retrouver la prochaine auberge, mais sache que tu es en marche vers une maison. Et rassurons donc nos cœurs, grâce à cette destination finale que Dieu nous réserve, parce que Dieu fait toutes choses belles, dans son temps, dans son tempo. Prenons finalement l'exemple de Jésus. Rappelez-vous ce que nous dit Hébreux, que Jésus, lui, avait la croix en perspective. Lui avait la chance de savoir qu'il y avait quelque chose qui allait être mauvais, qui allait lui arriver. Mais les Hébreux nous disent, gardons les yeux sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Il avait en vue la joie qui lui était réservée. Aussi, ce n'est pas écrit ici, mais donc, puisqu'il avait vu qu'il y avait une maison qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Tirant exemple sur Jésus alors que nous allons affronter les prochaines turbulences de nos vies, avec joie et espérance en Dieu. Et je vais nous inviter à prier. Père Saint, je te suis reconnaissant car tu es plein de grâce. Tu es plein de grâce à court terme et dans nos vies, nous sommes ébahis et spectateurs de toutes les grâces que tu nous envoies. Tu es aussi plein de grâce à long terme et dans l'éternité, nous savons que tu feras toutes choses belles. Je te prie de nous fortifier, Père, par ton esprit parce que bien souvent au milieu de turbulences, tu sais que c'est difficile de garder les yeux élevé alors que les vagues nous submergent, de garder les yeux sur l'espérance qui nous attend. Alors fortifie-nous, je te prie, car nous sommes bien faibles et donne-nous de nous réjouir de la destinée à laquelle tu nous appelles. Ceci afin que les gens aussi qui nous entourent voient cette espérance et qu'ils aient envie de te connaître. Toi, la chose la plus précieuse qui nous est possible de connaître est Jésus-Christ ton Fils. Agis ainsi afin que ton nom soit glorifié et que tes enfants se réjouissent d'avoir été élus. Et c'est dans le précieux nom de ce Jésus qu'on peut s'approcher de ce Dieu saint, nous qui sommes des humains bien impurs. Amen.